Chers auditeurs, chères auditrices de Mède Résistance Radio Galère 88.4, bonsoir. Nous entamons un nouveau lundi, donc ce lundi 8 décembre, jour de la fête de Marie, avec une émission Mède Résistance. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais désormais le timing de Mède Résistance a changé. Mède Résistance, c'est sur Radio Galère 88.4. tous les 15 jours, alors qu'avant c'était tous les lundis, maintenant on a gardé le même créneau et le même jour, donc de 19h à 20h, avec rediffusion le mardi matin de 7h à 8h, mais une fois tous les 15 jours. Voilà, et donc ça veut dire que la semaine prochaine vous n'aurez pas d'émission, mais vous en aurez une la semaine d'après. Et il faut savoir une chose, c'est que tous les podcasts sont sur le site de la radio, de Radio Galère, à l'emplacement dédié à Mède Résistance. Je rappelle que le petit logo de Mède Résistance, c'est deux cerises pour rappeler une célèbre chanson qui célèbre la résistance française, Le temps des cerises. Radio Mono, sur Radio Mono à Châlons-Champagne 90.6, on garde le créneau du deuxième et du quatrième jeudi de chaque mois, de 19h à 20h également. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler d'un homme politique français qui est Léon Bourgeois. Alors, Léon Bourgeois, qui était-ce ? Léon Bourgeois, c'est quelqu'un qui est né en 1851 à Paris et qui est mort en 1925 dans la Marne, au château dit d'Auger. Les gens qui habitent dans la Marne connaissent bien Auger. C'est une petite commune qui est située à côté d'une autre commune, d'un petit village qui s'appelle Ménil-sur-Auger. Et là, on est en plein dans la Côte des Blancs où on produit du champagne. Alors, qui est Léon Bourgeois ? Léon Bourgeois, c'est un homme d'État français. Il est issu d'une famille modeste et républicaine. Il commence sa carrière dans l'administration, qu'il quitte après son élection à la Chambre des députés en 1888. Il est radical et il va exercer plusieurs fonctions ministérielles. Donc, il commence dans l'administration. Il était d'ailleurs à ses débuts, il travaillait, je vais vous dire exactement dans quel service il travaillait quand il était jeune. Il travaillait dans... je crois, au contrôle des structures, enfin quelque chose qui avait un rapport avec le foncier, puisque la Marne, c'est un territoire qui est très très agricole. Voilà. Il a une formation de juriste. Il a d'abord travaillé comme avocat, d'abord dans le cabinet de son oncle, puis en 1875 dans celui d'Albert Christophe, qui était avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Et puis, il va soutenir sa thèse de doctorat le 5 avril 1876, et sa thèse s'intitulait « Les chemins de fer économiques à voie étroite et sur accotement ». Il faut savoir qu'à cette époque-là, en 1876, à l'époque, Léon Bourgeois a très exactement 25 ans. Et à cette époque-là, le chemin de fer, c'était très important. C'est l'époque où les chemins de fer commencent à se multiplier un peu partout sur le territoire français, et notamment dans la Marne, ça jouait un rôle très important pour véhiculer les céréales qu'on fabriquait, qu'on produisait sur les terres agricoles, ainsi que le vin de Champagne. Et donc, on pouvait aller par le chemin de fer de la Marne, de Strasbourg à Paris très facilement. Donc, c'était vraiment important. Voilà. Vous vous souvenez, on avait fait une autre émission également sur le petit chemin de fer de la Marne qui... permettait aux gens d'aller de village en village en suivant le territoire marnais. Ça, c'est autre chose, c'est ce qu'on appelait alors le CBR. On a fait une émission déjà avec Pierre Gandil de la médiathèque de Châlons-Champagne, la médiathèque Georges Pompidou, sur le CBR. Mais là, bon, il nous parle de chemin de fer. Léon Bourgeois s'intéressait donc très fortement au chemin de fer. Et à l'époque, les voitures, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Le chemin de fer, c'était le seul moyen de voyager. Ça fait une véritable révolution, autant dans le transport et l'échange de marchandises que dans le transport des gens en individuel. Le 18 avril 1876, Léon Bourgeois se marie avec une Chalonnaise, justement, puisque lui n'était pas originaire de Chalon, il était parisien d'origine. Il se marie donc avec Virginie Marguerite Cellier, une Chalonnaise qu'il a rencontrée grâce à Désiré Médéric Leblond, avocat et président du Conseil général de la Marne. Virginie Cellier fait partie d'une famille aisée. Son père, propriétaire vigneron à Auger, possède une belle demeure couramment appelée Château d'Auger, qu'il transmettra à Léon Bourgeois, et il possédait également une maison située au 5 rue Carnot à Chalon-sur-Marne. Je dirais qu'à l'époque, Chalon-sur-Marne, c'était Chalon-Champagne d'aujourd'hui. On a modifié le nom Chalon-sur-Marne. Je crois bien, si je ne me trompe pas, sauf erreur, que c'est en 1945, juste à la fin, après la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être pour égayer un peu le nom de Chalon, qui avait beaucoup souffert, autant en 1914-18 qu'en 1939-45, de la guerre. Le couple donc bourgeois s'installe dans la maison de la rue Carnot à Chalon-sur-Marne et Léon Bourgeois, tout de suite, même s'il n'est pas originaire de Chalon, cherche à s'ancrer localement. Ils ont deux enfants, Georges en 1877, qui deviendra médecin à Auger, puis Hélène en 1879. Donc je vous parle là en fait de la jeunesse de Léon Bourgeois. À l'époque il avait 25 ans, je disais, il venait de faire sa thèse. Et je vous en cite en fait ici, comme ça j'en profite pour en parler de cette exposition. Une exposition qui s'est tenue et qui continue jusqu'au 10 septembre pour les Chalonnais au 10 décembre, pardon, pour les Chalonnais qui ont le temps, aux archives départementales de Chalon-sur-Marne, de Chalon-Champagne, pardon. L'entrée est libre, ça a commencé le 19 septembre, ça finit le 10 décembre. Donc, c'est du mardi au vendredi de 13h30 à 16h30. Donc ça finit mercredi. Donc ceux qui auraient l'information et qui habiteraient à Chalon pourraient éventuellement y aller. Ça a commencé le jour des Journées européennes du patrimoine. L'exposition y a été inaugurée. Il y a eu une balade comptée dans la ville de Chalon-Champagne en rapport avec Léon Bourgeois. Et puis un discours imaginaire qui a été monté de toutes pièces, qui a été dicté ce jour-là, ce jour des Journées européennes du patrimoine au couvent Sainte-Marie, qui est le couvent qui abrite les locaux du département et des archives. Alors, ce n'est pas la première exposition qui a lieu sur Léon Bourgeois. À Chalon, une ville qui se doit d'honorer son patrimoine historique et notamment la présence dans ses locaux dans le passé de cet homme illustre, et on verra pourquoi tout à l'heure, on verra à quel point la luminosité qui émane de cet homme a un impact aussi bien sur le plan local que national que international. Il y a eu une autre exposition, il y a eu d'autres expositions par le passé, je ne les citerai pas toutes, et puis notamment, il y en a une en 2020. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on célébrait les 100 ans du prix Nobel de l'obtention par Léon Bourgeois du prix Nobel de la paix et en plein Covid. Alors l'exposition était superbe, d'ailleurs elle était sur en trois parties. Il y avait une partie au musée des Beaux-Arts, une partie dans le cloître de l'église Notre-Dame en Vaux et une troisième partie dans un autre musée. Une vieille maison bourgeoise qui a été conservée avec toutes ses peintures. Alors, Au musée des Beaux-Arts, on pouvait y voir la vie de Léon Bourgeois en tant qu'homme politique, mais aussi en tant que négociateur, en tant que diplomate. Et puis au cloître, c'était la vie de Léon Bourgeois à travers sa participation à la franc-maçonnerie. Et puis enfin, dans la maison bourgeoise que j'ai citée, il y avait une vision de Léon Bourgeois homme artiste, puisque c'était aussi un artiste qui peignait et qui collectionnait des œuvres d'art. Donc c'était un homme relativement complet. Donc l'exposition qui a lieu en ce moment aux archives départementales, fête la mort de Léon Bourgeois, puisqu'il est mort en 1925, donc c'est les 100 ans de sa mort. Donc on voit bien que Léon Bourgeois est honoré dans sa ville, peut-être pas toujours autant qu'on voudrait. Simplement, je voudrais dire que c'est bien, plus on en parle, mieux c'est. Il y a de temps en temps des conférences. Nous avons un historien local qui s'appelle Bruno Maltais, qui a publié justement en 2020, à l'occasion de ce centenaire du prix Nobel, Léon Bourgeois, apôtre et prix Nobel de la paix, chronique de la haie à Genève, un livre très très intéressant qu'on peut acquérir sur Internet. Il n'y a qu'à regarder Bruno Maltais sur Google et vous tombez dessus tout de suite. Et ce livre relate non pas une aventure individuelle qui serait celle de Léon Bourgeois, mais une aventure bien française, celle d'une France qui se veut chantre de la paix, qui organise dès 1920 la Conférence internationale pour la paix, où elle accueille les différentes nations qui ont participé à la guerre 14-18 et où sont signés tous les grands traités de paix. Je fais redondance avec, là vous pourrez y retrouver les chroniques, une exposition qui a eu lieu encore il y a quelques années au musée des armées, sur le site des Invalides à Paris, qui concernait justement les guerres dans les Balkans, où vous avez des tas d'images d'archives de cette conférence de Versailles en 1901, où toutes les nations, et notamment celles d'Europe de l'Est, sont venues pour signer des traités, pour les unes récupérer leur territoire, pour d'autres accepter qu'on leur prenne certains territoires pour les rendre à leurs propriétaires. C'était très intéressant, les chroniques existent toujours. Au musée des armées, il y a certainement un ouvrage qui relate l'essentiel de cette fameuse exposition. Un autre livre sur Léon Bourgeois, Léon Bourgeois et la paix, sous la direction de Maurice Vaïs, se sortit à peu près en même temps, vers 2020. C'est un livre auquel ont contribué Christophe Bellon, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université catholique de Lille, Carl Bouchard, professeur titulaire au département d'histoire de l'Université de Montréal, Jean-Louis Debré, ancien magistrat et président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, Xavier Desbrosses, un professeur agrégé du lycée Pierre Bayen de Châlons-en-Champagne, Jean-Michel Dieu, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Stanislas Janesson, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Nantes et membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Alors, il y en a plein d'autres, je ne peux pas tous les citer, ce serait beaucoup trop long. Alors, il y avait bien sûr aussi Maurice Vaïs, professeur à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne, qui crée et anime ARPEJE, une association pour la recherche sur la paix et la guerre. Enfin, il ne le fait plus, mais il a créé et animé pendant longtemps. Ceux qui sont intéressés par les recherches qu'on fait sur la paix et la guerre et les relations internationales, qui sont plus que jamais d'actualité aujourd'hui où on nous menace d'une guerre, tapez dans Google ARPEJE Reims. Voilà, donc c'est très intéressant. Donc en fait, Léon Bourgeois, cet ouvrage a été écrit également pour montrer quels avaient été le rôle de Léon Bourgeois, notamment dans l'organisation des deux toutes premières conférences internationales qui ont eu lieu à La Haye à la fin du 19e siècle. La première a été mise en place, je le précise, à l'initiative de la Russie. Ça c'est surprenant, mais voilà. Et à cette époque-là, c'est les Russes qui encore à l'époque étaient encore sous l'égide du tsarisme, qui avaient demandé à ce qu'il y ait lieu cette première conférence pour la paix. Puis après, il y en a eu une deuxième. Et puis après, il y a eu la guerre de 14-18. Il y a eu le fameux traité de Versailles en 1920, à l'initiative qui s'est déroulée à Paris, à Versailles. L'expérience de la haie, c'est 1899 pour la première conférence internationale et 1907 pour la deuxième. Vous voyez qu'entre 1907 et 1914, il se passe 7 ans et puis tout dégénère brutalement et il y a une guerre mondiale. Pareil, il y a la conférence pour la paix en 1920, on fait tout pour qu'il y ait la paix dans le monde et dès 1939, c'est la guerre à nouveau. Aujourd'hui, on affronte une époque où on est encore menacé de guerre. Il est plus que jamais temps de tirer les leçons du passé, notamment de la manière dont ont été réglées les crises à la fin du XIXe siècle d'une part et entre les deux guerres du XXe siècle d'autre part, pour essayer de comprendre pourquoi il y a eu cet échec et pourquoi il y a quand même eu deux guerres mondiales alors que juste avant, les forces en puissance et les hommes clés ainsi que les accords mis en place concordaient tous ensemble pour maintenir une paix durable. N'oublions pas que en 1800, lorsqu'a eu lieu la première conférence internationale à La Haye, on venait juste de sortir d'un autre conflit important, toujours avec l'Allemagne, qui était le conflit qui a donné lieu à la guerre 1870. Donc il y a des questions à se poser. Puisque cette première conférence a eu lieu en 1899, certainement pour tirer les leçons de la guerre qui avait eu lieu en 1870. Après il y en a eu une autre en 1907, ce qui montre bien que les gens qui avaient organisé ces deux conférences avaient, y compris la Russie, la première, avaient bien l'intention de tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur le rôle de Léon Bourgeois dans l'émergence d'un paradigme de paix. Un paradigme de paix dont je rappelle qu'il est quand même très très fragile, puisque je viens de l'expliquer, et de dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose pour qu'il y ait une paix, pour mettre en place une paix durable, eh bien il y a quand même échec et il y a quand même une guerre. Un peu après, donc il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce que ce paradigme de paix, qui a été en grande partie ouvert par Léon Bourgeois, ne fonctionne pas à long terme et à moyen terme non plus? Donc je continue avec la biographie de Léon Bourgeois. Pourquoi est-ce que je vous parlais de l'exposition Léon Bourgeois des archives départementales qui se tient en ce moment à Châlons? Tout simplement parce que je suis en train de reprendre le texte de cette exposition qui explique beaucoup de choses sur la biographie qu'on ne trouve pas forcément sur Internet. En parallèle de ses études de droit, Léon Bourgeois devient sous-chef du contentieux dans le ministère des Travaux publics d'Albert Christophe. C'est pour ça que je vous disais qu'il faisait qu'il travaillait sur du foncier. Enfin, il travaille au ministère des Travaux publics sur le contentieux. Dès qu'il obtient son doctorat de droit, il embrasse une carrière administrative qui dure 12 ans, et puis il devient député en 1888. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il est d'abord administratif et puis il quitte l'administration pour faire de la politique. Et il fait de la politique à quel titre? Au titre de son appartenance au Parti radical. Sous la Troisième République, il faut savoir que le Parti radical était un parti qui était très important. Les radicaux étaient de partout et ils constituaient ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche. Donc, Léon Bourgeois va avoir une carrière politique foisonnante. Il comprend, au moment où il devient député en 1888, que son avenir professionnel va basculer. Et il dit « J'ai le doigt dans l'engrenage, je suis désormais voué à la politique ». Il entame alors une longue carrière de 35 ans aux affaires qui prend fin à sa mort en 1925. Il devient 11 fois ministre dans des cabinets différents. Il réussit à devenir président du Conseil des ministres de 1895 à 1896, président de la Chambre des députés de 1902 à 1904, puis du Sénat de 1920 à 1923. Il aurait pu devenir président de la République, mais il refuse en 1912 de se présenter pour des raisons de santé. Donc ça, moi je ne connais pas toute la petite histoire liée à Léon Bourgeois, mais peut-être qu'il y a une autre explication pour des raisons de santé, qui n'a évoqué ces raisons de santé que par un prétexte. Il faut savoir qu'à l'époque, on a eu des présidents de la République excellents. À l'époque des Léon Bourgeois, il y a eu par exemple Raymond Poincaré, qui venait du sud de la France. C'était des hommes politiques qui avaient la tête sur les épaules, et qui ont d'ailleurs dessiné l'image du président de la République et de sa figure au-dessus des partis politiques, telle que l'a visionné le général de Gaulle et son équipe constitutionnelle, de constitutionnalistes, lorsqu'ils ont mis au point la fameuse constitution française de 1958, et non pas la 4e République. Simplement, il y a eu échec de la 3e République, tout simplement parce que, justement, les présidents, ça ne suffisait pas que les présidents de la République soient au-dessus des partis et qu'on ait des hommes d'État excellents. Comme les Français, il faut savoir que la Révolution française n'était pas très loin, 1789, c'est pas si loin que ça de 1888, c'est juste à peine 100 ans, eh bien, les Français, ça donnait avec joie. Enfin, du moins, l'intelligentsia française, parce qu'à l'époque, il y avait eu d'ailleurs le suffrage censitaire, c'est-à-dire qu'il fallait payer pour faire de la politique ou pour voter à une certaine période, ce qui témoigne bien de la mentalité de l'époque. Alors, il n'y a pas eu du suffrage censitaire tout le temps, mais n'empêche que pour pouvoir faire de la politique, souvent, il fallait être bien placé et avoir des fonctions, être notable. Ça, il faut bien le reconnaître, autrement, si on passait son temps à gagner sa vie, on n'avait pas toujours le temps de faire de la politique. Et donc, si je dis tout ça, c'est pour expliquer l'ambiance de l'époque, c'est pour dire que les Français, quand même, du moins ceux qui pouvaient se permettre de faire de la politique, étaient tellement contents de pouvoir s'approprier la chose publique que forcément, les partis politiques qui étaient influents étaient vraiment très influents et que il y avait très souvent des renversements de gouvernement parce que c'était d'abord les députés de la Chambre des députés qui tenaient les rênes, et que donc forcément ça faisait sauter les gouvernements, d'où une instabilité politique qui a fait dire plus tard au général de Gaulle que la Troisième République était une république de parti. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a mis en avant l'idée d'un président de la République au-dessus. Cela dit, il s'est néanmoins reposé sur l'image de certains hommes publics qui notamment ont été présidents de la République, qui étaient des hommes d'envergure. Ça ne veut pas dire que les présidents de la République, de la Troisième République, n'étaient pas de bons hommes politiques. Léon Bourgeois avait cette carrure qui correspond à l'idée d'un président de la République au-dessus des partis, soucieux avant tout de la chose publique et du bien-être et des citoyens. Pour reprendre le philosophe Aristote, qui théorise la chose publique et le politique, que nous dit-il ? Tout simplement que, d'abord, tout être humain est ce qu'il appelle un animal politique, c'est-à-dire que nous sommes tous voués à faire de la politique, que si nous ne sommes pas des politiques, nous ne sommes en quelque sorte des larves. On n'a pas vraiment d'âme si on ne raisonne pas le collectif. Et faire de la politique ou du politique, c'est raisonner collectif et penser à l'avenir de sa société et aux enfants et au lendemain pour les enfants et les petits-enfants. Et donc, Aristote nous dit que le politique, c'est le chemin vers la vertu avec un grand V. Alors, la vertu, ce n'est pas la morale, ce que j'appellerais la petite morale, c'est-à-dire celle qu'on érige en fonction de son appartenance à une classe sociale ou à une catégorie sociale ou à une culture particulière. La vertu, c'est tout simplement tout faire pour le bien-être de son prochain. Et je pense que c'est vraiment l'objectif numéro un d'un politique, que de penser au bien-être de tous. Donc ça passe d'abord par l'économique. C'est pour ça que Aristote a écrit non seulement un livre qui s'appelait Le Politique, et il a aussi écrit un livre qui s'appelle L'Économique, où il pose les bases d'une bonne organisation économique qui ne peut qu'être équitable. En quelque sorte, Aristote, c'est le philosophe qui a mis en avant le premier la notion d'équité. Et l'équité, qu'est-ce que c'est ? C'est la vertu avec un V majuscule. Donc je disais tout à l'heure, ce n'est pas la petite morale conjoncturelle qui dépend d'une époque d'une époque donnée, d'un effet de mode qui va durer 50 ans et pas plus, du changement social des catégories sociales ou culturelles ou socioculturelles, ou économiques. Mais c'est ce qui mène tout le monde, c'est-à-dire cette volonté du bonheur de tous. Pour Aristote, la vertu, c'est le bonheur de l'ensemble des citoyens. Alors bien sûr, vous allez me dire, le bonheur, c'est une notion qui est complètement floue. Le bonheur, c'est d'abord et avant tout le bien-être matériel. Et il y a beaucoup de gens on parle souvent d'idéologie, mais souvent les idéologies se trompent parce qu'elles ne mettent pas en avant d'abord et avant tout le bien-être matériel et spirituel ainsi qu'intellectuel de chacun. Si vous voulez, en d'autres termes, l'objectif, c'est là où on a un monde politique qui n'est animé que principalement par des notables, c'est le cas sous la Troisième République, on cherche à amener l'ensemble des citoyens, hommes, femmes et enfants, de toute catégorie, de toute couleur ou de tout milieu culturel ou socio-économique, vers la possibilité d'être des politiques, d'être des animaux politiques, d'être des êtres humains. Si je parle d'Aristote ici, c'est parce que la figure d'un bourgeois, sa biographie, ses actes, correspondent tout à fait à la vision qu'on peut avoir, que peut avoir Aristote, qui a écrit un troisième livre qui s'appelle L'éthique à Nicomaque. C'est un livre qui accompagne l'économique et le politique. Et dans L'éthique à Nicomaque, eh bien, il met en avant les valeurs d'éthique. Et c'est là qu'il parle justement de la vertu. Et qu'est-ce que c'est que la vertu ? C'est la possibilité, la volonté d'amener le bonheur à tous par le bien-être matériel en pratiquant ce qu'on appelle la voie du juste milieu, c'est-à-dire point d'excès en toute chose. Léon Bourgeois faisait partie de ces politiques, ces grands hommes politiques qui ont compris cela et qui travaillent et qui pensent et qui agissent pour le bonheur de tous. Non pas dans l'objectif de s'accaparer un pouvoir qu'il conserverait et qui le rendrait supérieur aux autres, mais simplement pour, quelque part, contribuer à travers sa personne qu'il s'efforcera d'effacer dans le futur pour amener sa société à évoluer dans le bon sens. Et ça va avec la guerre, puisque la guerre n'est pas compatible avec le bien-être matériel, le bien-être de chacun, ni avec le bonheur, ni avec la vertu. Donc voilà, pour dresser un petit peu le portrait de Léon Bourgeois. Donc, il refuse. Et pourquoi est-ce qu'il refuse ? Il dit que c'est pour des raisons de santé. Je me suis longtemps posé la question et je me suis demandé si réellement il pensait que c'était pour, enfin, si réellement sa santé l'empêchait d'être président de la République. Moi, enfin, j'ai ma petite idée dessus, mais je n'ai aucune source historique pour le prouver. Mais peut-être que tout simplement, il a refusé parce que c'était un homme sage, et être président de la République, ce n'est pas quelque chose de facile. On est obligé de faire des concessions. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Parfois, si on veut vraiment œuvrer pour le bien commun et pour le bien de tous, il vaut mieux se consacrer à d'autres œuvres en parallèle ou autour justement du pouvoir politique en place et renoncer à des grandes positions telles que la présidence de la République. C'est ce que j'ai pensé, je le dis simplement. Après, peut-être que Léon Bourgeois était réellement pas suffisamment en bonne santé pour être président de la République, mais bon, on peut quand même se poser des questions. Enfin, il est difficile, reconnaissons-le, de renoncer à l'idée d'être prince. Je fais référence ici à Machiavel, et peut-être que Léon Bourgeois, lui, aurait eu cette sagesse-là. Alors, donc, il refuse. Ça, c'est en 1912. Mais cependant, il a quand même beaucoup de responsabilités. Et ces responsabilités ne l'ont pas éloigné de son département d'adoption, la Marne. Je rappelle qu'il n'était pas marnais d'origine, mais qu'il était marié à une Marnaise. En plus d'avoir été secrétaire général de la préfecture de la Marne en 1877, puis sous-préfet de Reims en 1880, il est successivement député, puis sénateur de la Marne de 1888 à 1925. Et d'ailleurs, il est mort en 1925 alors qu'il était encore sénateur. Une telle carrière politique s'explique en partie par le fait que Léon Bourgeois est membre du Parti républicain radical et radical-socialiste, un parti qui a été fondé en 1901 et qui est classé à l'origine à gauche de l'échiquier politique, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un parti qui s'intéresse au peuple français et notamment aux pauvres. Les membres de ce parti partagent des idées communes qui s'organisent notamment autour de la défense du suffrage universel. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Le suffrage universel, c'était pas pour tout le monde. Il y a eu des périodes où il y a eu du suffrage censitaire. Je sais pas les dates, mais il y a eu des périodes en France entre la révolution de 1789 et la Troisième République où il fallait être riche pour pouvoir voter. Et donc lui, il milite pour le suffrage universel. Attention, à l'époque, on militait pour le suffrage universel, mais juste pour les hommes. Les femmes, elles, on le sait, ne votent que depuis 1945. Voilà. Le suffrage universel, la laïcité, donc c'est Léon Bourgeois est contemporain de Jules Ferry, et la mise en place de réformes sociales pour lutter contre la pauvreté. Je vais m'arrêter un petit moment parce que je vais vous faire écouter une musique qui je pense qui est intemporelle et dont je pense que Léon Bourgeois devait certainement apprécier. C'est Franz Schubert, c'est la symphonie numéro 8. Je reprends parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Léon Bourgeois. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais pouvoir tout dire parce qu'il a eu énormément, il a fait beaucoup de choses. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu sa carrière d'homme politique. Alors, sous l'impulsion de Léon Bourgeois, de grandes réformes voient le jour. La loi de séparation des églises et de l'État en 1905, il a participé. L'institution du repos dominical en 1906. La création du premier système de retraite ouvrière et paysanne en 1910. La création de l'impôt sur le revenu en 1914. Ou encore l'instauration de la gratuité de l'enseignement secondaire. La Troisième République, qui a été proclamée en 1870, utilisait alors la franc-maçonnerie qui était propice à la propagation des idées républicaines. Léon Bourgeois y a joué un rôle important. Il a fait partie de la loge maçonnique rémoise qui s'appelait la Sincérité. Ses membres étaient sensibles aux idées républicaines. Il devient maître de la loge d'ailleurs le 22 septembre 1882, alors qu'il n'avait été initié que le 15 juillet, c'est très rapide. Il va également faire partie sur Chalon de la bienfaisance chalonnaise. Et donc, Léon Bourgeois était donc franc-maçon. Ça, c'est important à savoir. Vous avez, pour ceux qui s'intéressent à l'activité franc-maçonnique de Léon Bourgeois, au Musée des Beaux-Arts de Châlons-en-Champagne, l'ouvrage qui est sorti à la suite de l'exposition qui a eu lieu en 2020, où la partie franc-maçonne de l'exposition en trois parties est notamment relatée. Alors, il y a autre chose qui est très important, c'est que Léon Bourgeois a mis en place, enfin a théorisé ce qu'il a appelé le solidarisme. Et le solidarisme, en fait, c'est quelque part une transposition de la fraternité franc-maçonne à la chose publique locale et nationale, mais également sa transposition au droit international. Et ça, c'est très intéressant. Il va se servir de son activité de juriste pour théoriser les relations internationales telles qu'elles devraient être demain. Alors, il a écrit un livre qui s'appelle « Solidarité, une doctrine juridico-morale, le solidarisme ». Dans cet ouvrage, il considère que l'épanouissement de chaque citoyen est dû à une dette sociale contractée envers la société, le quasi-contrat. Même si aucun contrat n'engage l'individu, il est redevable envers les autres individus de la société, alors appelée l'association humaine. Donc une société, ça ne serait rien d'autre qu'une association. Et une société, ça peut exister aussi bien au niveau national, donc une patrie, un État, une nation, plus précisément le terme est mieux choisi, mais ça peut aussi être une société internationale. Et d'ailleurs, je le dis tout de suite, je ne voudrais pas le dire tout de suite, mais j'en parle, Léon Bourgeois est un des grands initiateurs de la Société des Nations, l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies. Et oui, c'est français, chers auditeurs. Alors, Léon Bourgeois pense que la solidarité envers son prochain et entre les générations est primordiale. Il y a derrière tout cela également tout un paradigme qui est issu d'une façon de penser qui est très catholique, puisque n'oublions pas que nous sommes dans une société qui est encore profondément catholique, même s'il y a aussi beaucoup de catholiques ou protestants, qu'on va dire du moins chrétiennes, et qu'on doit beaucoup, notamment aux catholiques, sous la Troisième République, on va dire en fait dans toute l'après-révolution française, et ce jusqu'à à peu près en 1945, on doit beaucoup à la doctrine sociale de l'Église catholique française. Pourquoi? Tout simplement parce que il y avait d'abord une tradition. Sous la monarchie à laquelle on a mis fin en 1789, les nobles, ceux qui avaient du bien, ainsi que les bourgeois, qui pouvaient se le permettre, menaient toujours une œuvre sociale. C'était un devoir, c'était ce qu'on appelait le devoir de charité. On se souvient, vous vous souvenez des images de Louis XIV en train de pratiquer ce qu'on appelle les écrouelles, une tradition qui vient du Nouveau Testament où on voit le roi qui est transmetteur du pouvoir divin, qui a une origine divine qui vient du Christ, s'agenouiller devant des lépreux et les toucher pour qu'ils guérissent. Toutes les grandes dames de l'aristocratie allaient dans les hospices, les couvents, les orphelinats et dans la rue pour distribuer à manger. On pratiquait ce qu'on appelait l'œuvre de charité. Ça, c'est resté. Bien entendu, on a mis fin à l'ancien régime, mais les bourgeois qui ont ensuite pris le pouvoir ont continué à suivre cet exemple de charité. Alors au début, c'était pas formel, et puis progressivement, des associations à vocation religieuse se sont mises à organiser des bâtiments, des locaux, des institutions qui récupéraient les gens qui étaient dans le besoin de façon à pouvoir leur donner une vie décente. Donc ce sont des institutions qui sont très importantes, qui ont foisonné au cours du 19e siècle et encore jusqu'à 1945. Alors je m'arrête à 1945, même si ça a encore continué après, bien sûr. Je dirais qu'en fait, si je m'arrête à 1945, parce que 1945 c'est l'armistice, beaucoup de ces associations à caractère religieux ont joué un rôle très important dans la résistance française, et notamment, il y a beaucoup de gens qui étaient menacés de mort qui étaient menacés d'être déportés pour en raison de leur judaïté ou de leur handicap ou de leur vieillesse, qui ont été protégés. Et donc en fait, c'est pour ça que par décence, même si ces institutions sont moins importantes après, c'est-à-dire que les hospices progressivement deviennent publics, notamment grâce à l'œuvre de Léon Bourgeois, entre autres, je veux quand même englober toutes ces associations et toutes ces institutions dans la résistance française et dans le fait qu'on ait gagné la guerre. Et donc voilà. Oui, c'est ce que je voulais expliquer, pourquoi ces idées de gauche se propageaient alors. Que ces idées de gauche n'étaient pas des idées qui venaient de n'importe où. Elles ne venaient pas du tout de la révolution de 1917 en Russie, malgré ce qu'ont pu croire certains. Certes, il y avait beaucoup d'admirateurs de la révolution de 1917 parmi les gens de gauche, qui le disaient pas forcément, elles venaient plutôt d'une doctrine sociale de l'Église, j'allais dire, hein, et d'une pratique qui a donné lieu à une pratique, à une coutume. Et ça fait partie de la culture française. Donc, c'est pour mieux comprendre la gauche française. Alors, voilà. Que nous dit encore Léon Bourgeois sur le solidarisme ? Un individu est considéré comme un partenaire privilégié avec qui il faut coopérer et non comme un ennemi potentiel ou avéré qu'il faut combattre. Il est très novateur et très avant son temps, parce que ça fait pas très très longtemps que le paradigme de coopération tend à se substituer progressivement à un paradigme concurrentiel dont on sait qu'il a commis des ravages aussi bien en France que dans tous les pays du monde. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand il y a concurrence, il y a toujours un perdant, et ce perdant cherche toujours, un jour ou l'autre, à se venger, donc le gagnant d'aujourd'hui et le perdant d'hier. Donc forcément, on n'arrive jamais à maintenir une société humaine, qu'elle soit internationale ou locale, qui est pérenne à long terme, en assurant un bien-être et une perpétuation de la solidité des institutions et de la vie des uns et des autres, tout simplement parce que il y a toujours la guerre. La concurrence et la compétition, ça fait pas très longtemps que aujourd'hui on apprend dans les écoles de commerce qu'il vaut mieux coopérer que concurrencer. Ça fait pas très longtemps non plus qu'en matière de négociation commerciale ou de négociation internationale en économie, sur les échanges de biens et services, les imports et exports, on met en place un paradigme de coopération en essayant de laisser s'entendre tout le monde et de faire jouer les avantages comparatifs pour de vrai au lieu de faire de la concurrence pour voir qui c'est qui va gagner le plus. Puisqu'on sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura toujours une partie lésée et que celle qui est lésée aujourd'hui sera celle qui lésera demain. Et donc, c'est pour ça que je dis que Léon Bourgeois est très en avance sur son temps. Grâce à la coopération, on peut multiplier les pains et faire ce qu'on appelle une formule mathématique qui est vraie, 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire, c'est ça, multiplier les pains, on ne se contente pas de faire une addition en faisant 1 plus 1, c'est-à-dire en faisant coopérer deux États entre eux, pour de vrai, ou deux êtres humains entre eux, on crée une troisième entité qui est quelque chose de très positif. Et donc ça, Léon Bourgeois l'avait très bien compris en homme intelligent. C'est pour ça que je le place parmi les très grands hommes politiques français. Et donc, c'est pas étonnant du tout que, en plus de mettre en place beaucoup d'éléments qui sont devenus le ferment de nos politiques sociales d'aujourd'hui et d'un accès à davantage d'égalité, il est aussi l'homme qui a largement contribué à la paix dans le monde et au maintien d'un paradigme de non pas de compétition internationale, mais de coopération internationale. On l'a dit tout à l'heure. Il est le représentant de la France aux toutes premières conférences internationales pour la paix, qui sont celles de 1877, si je ne me trompe pas, je l'ai dit tout à l'heure, et celles de 1907. Et grâce à tout ça, il participe très très activement à l'érection d'un droit international, avec ses règles, et notamment le droit de la guerre, et puis il est l'un des initiateurs de la Société des Nations. Il faut dire que Léon Bourgeois avait une conception de la diplomatie qui était très innovatrice. Pour lui, la diplomatie, c'est d'abord une diplomatie du droit, c'est-à-dire de l'équilibre entre grandes puissances. Et là, je cite le livre « Léon Bourgeois et la paix » qui a été écrit sous la direction de Maurice Vaïs aux éditions de l'École nationale des chartes sous l'égide de la direction des archives du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans la collection « Diplomatie et histoire ». Cette paix qui résulte de combinaisons diplomatiques et ne se définit que comme l'absence de guerre est un vaste échafaudage sans fondation profonde. Cette paix qui résulte de combinaisons diplomatiques et ne se définit que comme l'absence de guerre, la guerre étant vue comme un vaste échafaudage sans fondation profonde, c'est ce que je disais tout à l'heure, est celle d'un concert européen mis à mal en cette fin du 19e siècle par les systèmes d'alliance qui viennent en pervertir l'esprit. Qui ne voit qu'un pareil état de choses est essentiellement précaire, qu'il ne peut durer sans accroître indéfiniment le danger d'une guerre qui serait d'autant plus formidable qu'elle entraînerait le moment venu l'ensemble des États. Nous dit Léon Bourgeois, je le cite, ici c'est son discours du 31 mai 1909, repris dans « Pour la Société des Nations », un autre ouvrage qu'il a écrit. La diplomatie du droit que Bourgeois appelle de ses voeux entend au contraire construire une paix contractuelle entre tous les États, fondée sur des règles auxquelles chacun souscrirait de plein gré et sur des valeurs partagées par les peuples. À l'organisation militaire de la paix, il faut substituer l'organisation juridique de la paix. Et combien Léon Bourgeois est-il perspicace de mettre d'abord en avant le droit ? Certains diraient qu'en mettant en avant le droit avant les sentiments ou l'idéologie, on fait ce qu'on appelle de la robotisation, ou qu'on devient un technocrate du droit, ou que ce qu'on appelle du juridicisme. Mais pas du tout. Le droit a été fait pour des êtres humains, et lorsqu'il est bien fait, il peut conduire à une société prospère dans laquelle une paix durable peut être mise en place, que ce soit au niveau international ou national, à tous les niveaux. Lorsque ce n'est pas le droit qui règne, ça ne se passe pas bien. On le voit en ce moment, par exemple, avec le cas de la Palestine. C'est un très bon exemple de non-respect du droit international, où on voit bien que ça ne se passe pas bien, puis que ça va continuer à se passer pas bien pendant, et que ça va durer pendant des décennies, puisqu'il va falloir régler les problèmes survenus à cause, justement, de la non-application du droit. C'est pareil pour la Deuxième Guerre mondiale, qui est une guerre de voyous, c'est-à-dire qu'un État voyou attaque d'autres États, les annexe et fait n'importe quoi avec les biens et les hommes. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui encore? On paye encore les méfaits de cette non-application du droit. Ça me rappelle une application du droit qu'on aurait pu exiger un an avant la guerre, en 1938, à Munich, et qu'on n'a pas fait. Si Léon Bourgeois avait été encore vivant en 1938, il aurait été l'un des premiers à prôner justement la mise au banc de la scène internationale de l'Allemagne de l'époque. Voir, pourquoi pas, puisque lui-même ne dit pas qu'il faut éviter la guerre et qu'il faut, il ne dit pas qu'il faut en toutes circonstances éviter la guerre. Il dit qu'il faut en toutes, pardon. Il ne dit pas qu'il faut en toutes ces circonstances nier que la guerre exister. Mais tout comme là-haut-dessus, il préconise tout simplement, et ça c'est de nature Confucius, c'est de nature confucéenne, l'ouvrage L'art de la guerre le montre bien, c'est que la guerre doit toujours être évitée. C'est toujours le dernier expédient. Simplement, lorsque vraiment on ne peut pas faire autrement, à ce moment-là, la guerre est possible. Mais c'est toujours au nom du droit. Ce n'est jamais dans un but d'accaparement de quoi que ce soit, ni d'un intérêt personnel ou de l'intérêt d'une seule nation. Et par ailleurs, doit lui précéder toute une série de tentatives de maintien de la paix. Et ces tentatives-là, ça commence d'abord par la prévention, c'est-à-dire quand on est en période de paix. Or, après 1945, on était en période de paix et de reconstruction, et on n'a pas fait ce qu'il fallait en matière de prévention pour éviter les guerres qui allaient venir. Voilà ce que nous dit Léon Bourgeois. Donc, Léon Bourgeois est très confucéen, hein, finalement. Alors, est-ce qu'il avait lu Confucius? Ça, je ne sais pas. Simplement, un excellent ouvrage que je préconise à tout le monde pour comprendre ce paradigme-là, qui est quelque part aussi le paradigme chinois, c'est L'art de la guerre de Sun Tzu. S-U-N-T-Z-U. Séparé. Qui est d'inspiration très confucéenne également. Donc voilà, Léon Bourgeois appelle de ses voeux une paix contractuelle et il dit qu'il faut une révolution culturelle à laquelle bien peu de diplomates de métier sont prêts à adhérer. À l'époque, plus encore qu'aujourd'hui, le paradigme de la guerre était encore très fort dans les esprits. Les différentes monarchies avaient montré le pas. Il fallait mener une guerre, et ça, c'est très pour ça, et ça a duré des siècles et des siècles. Il fallait mener une bonne guerre pour enrichir l'État et pour conquérir des territoires. C'est d'ailleurs, je citerai ce roi-là, mais il y en a eu plein d'autres, l'un des principaux leviers de la politique de Louis XIV, qui multipliait les guerres en Europe, justement pour les mêmes raisons. Toute sa légitimité politique venait de là. Et donc, comment voulez-vous que les Français, que la société française, après avoir pendant des siècles été conduite par des gouvernants qui pensaient que seule une guerre peut peut permettre d'assurer à la grandeur de la France. Comment voulez-vous que d'un coup on change et qu'on se mette à penser qu'il faut à tout prix prévenir la guerre et mettre en place une paix durable pour être une nation équilibrée et en sûreté, et ainsi que prospère. Donc c'est juste, c'est simple, c'est vraiment Léon Bourgeois, il est vraiment très très innovateur, et s'il dit il faut une révolution culturelle, eh bien c'est cette révolution, c'est vraiment, il nous dit il faut changer les esprits. Or aujourd'hui on constate que malgré les perpétuateurs des idées de Léon Bourgeois et d'autres politiques ou intellectuels qui ont cherché à répandre l'idée d'une paix durable et d'une prévention contre la guerre, ainsi que d'un règne du droit, aujourd'hui on voit bien que les vieux fantômes reviennent et que dans certains milieux on se remet à propager l'idée selon laquelle la guerre est indispensable si on veut asseoir la puissance française. Ou, voire, certains, vous me direz aujourd'hui, européenne. C'est transposé au niveau de l'Union européenne. Ça aussi, cela aussi bien dans les milieux diplomatiques que dans d'autres milieux politiques en France. Et partout en Europe et dans le monde. Voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que je ne peux pas vous citer tous les livres. Simplement, ben voilà, Léon Bourgeois, c'était un homme politique très intéressant. C'est un peu frustrant de ne pas pouvoir tout vous dire. Ce n'était pas un rêveur. Il sait que la révolution, et pour lui, il a aussi théorisé l'idée révolutionnaire. Pour lui, la révolution doit substituer le règne de l'ordre et de la justice à celui de la force et de la violence. Il disait que ça ne se ferait pas en quelques années, donc ça n'est pas encore fini, aujourd'hui en 2025. Et c'est à cet homme d'action de la paix que l'on doit en grande partie toutes les tentatives de gouvernance mondiale, tous les efforts pour le multilatéralisme au XXe siècle. Voilà. Alors, Léon Bourgeois, on n'en parle jamais. On parle beaucoup d'Aristide Briand ou d'autres hommes politiques illustres qui ont œuvré pour la paix dans le monde, mais jamais de Léon Bourgeois. Donc je voulais faire cette émission parce que je voulais mettre en avant sa personnalité et son œuvre qui est foisonnante. Je ne vais pas parler de tout. Il avait une bibliothèque énorme, immense, avec un nombre d'ouvrages très très importants, qui ont été légués en partie, je crois qu'il y en a une partie qui est partie en Suisse, qui est partie à La Haye, juste aux Pays-Bas, pardon, ou en Suisse, je ne sais plus. Et il y a aussi une partie qui a été léguée aux archives départementales et aussi aux archives municipales, avec des livres très intéressants. Enfin, il avait une bibliographie. Il avait lu beaucoup de livres, beaucoup d'ouvrages. Je ne sais pas s'il avait lu tous les livres qui étaient dans sa bibliothèque, mais en tout cas, c'était des livres très bien choisis. Voilà. Il met en avant des notions qui sont très importantes aujourd'hui en droit international ou en droit du commerce international, comme l'arbitrage, la présence d'instances spécifiques à l'arbitrage notamment, et puis c'est aussi un artiste. Tous ces grands politiques qui avaient des idées, qui avaient des idées humanistes, ont toujours été des artistes en même temps. Léon Bourgeois peignait et il collectionnait les œuvres d'art. Voilà, chers auditeurs, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que cette émission vous a intéressé et je vous souhaite une excellente semaine, puisque nous sommes lundi. À très bientôt, au revoir.